Marcel Lumbumba au Katanga Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Lundi 18 mars dernier, le général Rebel Bosco Ntaganda s'est rendu à l'ambassade américaine de Kigali et a été transféré à la Cour pénale internationale 48 heures après pour y être jugé. Nous vous accordons la parole aujourd'hui pour commenter cette actualité avec comme question principale: que vous inspire la reddition de Bosco Ntaganda et quelle suite probable donner à cette affaire? Pour participer à cet échange de près de 57 minutes, composez les 081 890 63 15. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Sylvain Matundu qui assure la mise en onde de cette émission. Titi Poutou, Pierre Lamégi la réalise et Gilles Lungembo vous la présente. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Vous êtes nombreux à pouvoir déjà à vous inscrire pour participer à cette émission. Nous allons vous mettre en ligne dans quelques instants, mais nous recevons notre invité Dominique Vert qui est avec nous dans ces studios. En tout cas, c'est un réel plaisir hein, pour nous de vous avoir dans ces studios. D'habitude, on a le temps de converser, d'échanger en ligne. Dominique, merci. Vous êtes là depuis jeudi.
Voilà.
Vous êtes analyste politique et aussi chercheur au niveau des centres d'études politiques pour les questions de l'Afrique centrale. Et merci d'être venu, il faut encore bonjour.
Merci beaucoup et bonjour à tous vos auditeurs. Et je suis en effet très content d'être dans le studio et pas par téléphone à 8000 km.
Voilà. Alors Dominique, pensez-vous que la reddition de Bosco Ntaganda est un remède pour la stabilisation et la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo?
Ben, écoutez, moi je pense qu'on peut en tout cas faire trois analyses. La première, c'est qu'il est évident que c'est un signal fort qui a été envoyé à tous les chefs de guerre, qu'ils soient rebelles ou pas rebelles, mais qui agissent dans l'est de la République démocratique du Congo depuis maintenant de très nombreuses années. C'est évidemment un signal fort. Et donc, on peut en tout cas penser qu'il y a, avec cette arrestation, ce transfèrement vers... faudra voir un peu, l'histoire nous dira comment ça s'est exactement passé lorsque M. Ntaganda s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali, et voir si c'était vraiment sa volonté personnelle ou bien si on l'a plutôt invité instamment à se rendre là-bas. Mais donc c'est vrai que c'est un signal fort pour la lutte contre l'impunité, pour démontrer qu'en effet de tels agissements doivent être poursuivis, que ce soit par des juridictions nationales ou que ce soit dans ce cas-ci par des juridictions internationales. Maintenant, deuxième analyse, c'est peut-être un peu moins optimiste, elle est peut-être un peu moins optimiste, parce que, c'est pas parce que M. Ntaganda maintenant est à la haie que tout est réglé dans l'Est. Il y a d'autres chefs, et on oublie parfois, ou assez souvent de le dire, mais on sait très bien qu'il y a le fameux mouvement du M23 qui sévit, mais on sait très bien aussi, et on l'a vu encore hier à Lubumbashi, il y a d'autres groupes militaires rebelles et non contrôlés qui sévissent dans la région, et dont les chefs ne sont toujours pas aujourd'hui arrêtés, et en plus, qui nous dit qu'il n'y aura pas un successeur à Monsieur Ntaganda au niveau de cette faction, de cette branche du M23 qu'il dirigeait? Donc moi je serais quand même un peu plus prudent en disant, ok, c'est une bonne nouvelle, c'est un signal fort, mais malheureusement il n'est pas encore accompagné d'effets concrets sur la population et surtout sur la sécurisation dans cette région-là. Et puis troisième petite analyse, je pense que la manière dont tout cela s'est fait en une semaine pourrait quand même aussi faire penser que du côté des autorités congolaises, il y aurait un petit manque de proactivité. Et donc, on voit bien que c'est un dialogue qui s'est fait avait entre les États-Unis, le Rwanda et sans doute, bien entendu, la RDC, mais qui était plutôt en deuxième ligne. Mmh. Alors que, on sait bien, maintenant on verra aussi quelle est la nationalité de Monsieur Ntaganda, mais on sait quand même que c'est quelqu'un qui a sévi dans les, sur le territoire de la RDC, qui est un ancien militaire des forces armées qu'il avait rejoint de la République démocratique du Congo, qu'il avait rejoint après les accords de Goma. Donc c'est quand même quelqu'un qui
oui,
a...
Oui, parce qu'avant que le Rwanda ne puisse collaborer, nous avons suivi le ministre de la Défense hein, qui a utilisé des propos quand même pour, au fait, mettre un peu au clair sur la nationalité
oui, de l'Arata, bien entendu.
Qui disait il s'est rendu à l'ambassade américaine, c'était un sujet congolais,
tout à fait.
Qu'il fallait que les autorités congolaise et l'ambassade puissent travailler sur ces transferts.
Tout à fait, tout à fait. Et donc la RDC et les autorités de la République démocratique du Congo sont évidemment tout à fait intéressées et en première ligne au niveau de l'intérêt de l'arrestation et puis alors maintenant de l'enquête et du procès qui risque d'avoir lieu à La Haye aux Pays-Bas au niveau de la Cour pénale internationale. Mais donc on a senti quand même que les autorités congolaises ont un peu été mises de côté dans les derniers événements de la semaine passée. Et donc ça, c'est quand même aussi un petit signal inquiétant. Et je pense qu'il faudrait vraiment que du côté des autorités congolaises, on reprenne un peu la main dans ce débat-là. Alors il y a eu la rencontre hier avec les chefs d'État des pays limitrophes. Je pense que le chef de l'État congolais doit reprendre incessamment vraiment la main sur la sécurisation de la région à l'est.
Voilà, il y a Chico Kietel-Boumachi, Sami Amagi, Franck Kakananga, on va leur accorder la parole tout à l'heure. Mais Dominique, que peut-il signifier cette reddition à l'ambassade américaine dès lors que les États-Unis n'ont jamais pris part à la signature du traité de Rome?
Oui, bien entendu, c'est assez interpellant de voir en effet un pays qui n'a pas signé le traité de Rome, c'est-à-dire le traité qui met en place la Cour pénale internationale, et les États-Unis ne sont donc pas partie prenante de cette Cour pénale internationale, mais c'est eux qui ont fortement insisté pour que M. Ntaganda soit déféré là-bas. C'est évidemment assez troublant. Moi, je pense que c'est en tout cas la démonstration que les États-Unis, pour être polis et prudents, les États-Unis n'ont absolument pas perdu l'intérêt qu'ils ont dans cette région-là. Et la stratégie des États-Unis de vouloir reprendre le contrôle sur la zone de l'est de la République démocratique du Congo, à cause, bien entendu, des ressources naturelles qui y sont et dont on sait que de grandes multinationales nord-américaines sont évidemment les premiers bénéficiaires de ces ressources-là. Et donc, je pense qu'il y a eu une volonté de Washington de vouloir reprendre un peu le contrôle sur cette région-là.
Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un signal à mettre dans l'actif des accords d'Addis Abeba?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons, à mon avis, ou plusieurs éléments. Le premier, c'est certainement le deuxième mandat de M. Obama. On a bien vu que sous son premier mandat comme président des États-Unis, il était beaucoup plus centré sur l'intérieur de son pays, sur la politique intérieure, la politique économique, parce qu'il y avait eu la crise financière de 2008. Ici, sur son deuxième mandat, on l'a vu, enfin il l'a dit de toute façon, qu'il voulait que les États-Unis reprennent un peu pied sur les grands débats internationaux et les grandes zones de conflit ou d'instabilité dans le monde qui pourraient mettre à mal la stratégie des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis ont besoin, comme les grandes puissances évidemment internationales, ont besoin des ressources qui sont ici dans le sous-sol congolais pour leurs besoins propres.
Et comment voyez-vous la collaboration du Rwanda dans cette affaire?
Moi je pense en effet, là, peut-être il y a eu, je crois, un déclic. On ne l'a peut-être pas assez estimé. Mais il y a eu un déclic, je pense, avec l'accord cadre d'Addis Abeba. On en avait parlé il y a deux semaines, ici dans cette même émission, où les gens étaient un peu circonspects en disant, mais enfin, un accord de plus, et puis finalement, on ne voit rien qui change. Moi, je pense quand même que l'accord cadre a fait en sorte que le Rwanda se sent maintenant, alors peut-être est-ce aussi lié au fait qu'il est maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme membre non permanent pendant deux ans, et peut-être que le Rwanda se rend compte qu'aujourd'hui, il ne peut plus, comme ça, or ça c'est un secret de Polichinelle, il ne peut plus comme ça tirer les ficelles en soutenant des groupes rebelles ou des groupes informels comme le M23 à long terme. Ce n'est pas une stratégie à long terme. La stratégie à long terme, c'est évidemment la pacification de cette région et c'est évidemment la coexistence des États qui sont là au milieu de cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo, que ce soit l'Ouganda, le Rwanda, la Centrafrique, le Burundi. Et donc je pense qu'il y a peut-être aussi une prise de conscience de la part des chefs d'État de ces régions-là, et notamment de M. Kagame, pour
Est-ce que c'est à tort ou à raison que certaines personnes pensent que là, Kagame est en train de négocier son troisième mandat?
Ah, moi je pense que il y a dû avoir des discussions entre Washington et Kigali avant que M. Ntaganda ne se rende à l'ambassade des États-Unis à Kigali, justement. Je pense que M. Kagame a dû négocier quelque chose avec M. Obama. Alors, est-ce un troisième mandat? Dans les semaines qui viennent, on le saura assez vite, puisqu'il va falloir qu'il dévoile sa stratégie dans les semaines qui viennent, s'il veut changer la constitution de la République du Rwanda, afin de pouvoir se lancer dans son troisième mandat. On le verra. En tout cas, il y a eu certainement des négociations, et on sait bien qu'au niveau international, dans ces discussions-là, dans ces dialogues-là, ben, il y a toujours du donnant-donnant.
081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous prenons le premier auditeur qui nous a rejoint. Chico est à Lubumbashi. Bonjour Chico.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors vous venez de suivre là notre invité qui a développé trois analyses par rapport à l'actualité sur la reddition de Bosco Ntaganda et qui s'est rendu donc à l'ambassade américaine et qui a été transféré à la Cour pénale internationale. Alors que vous inspire cette reddition et quelle suite probable donner à cette affaire?
Ok monsieur JR, moi je suis vraiment très content d'avoir eu ce message de la reddition de Bosco Ntaganda. Vous savez, Bosco Ntaganda n'est pas n'importe qui. C'est un seigneur de guerre qui a massacré, pillé la population de l'Est. Maintenant, il était souvent protégé par le gouvernement congolais. On lui a transféré à la haie, mais le gouvernement congolais donnait toujours des propositions de dire que non, c'est pour privilégier la paix, Bosco Ntaganda ne sera pas transféré. Mais pour le moment, lorsqu'il est transféré, c'est une bonne nouvelle à la population congolaise, mais cela ne doit pas s'arrêter seulement avec Bosco Ntaganda. Il y en a encore d'autres qui œuvrent à l'Est du pays. Il y a par exemple Laurent Kunda, il est encore là vivant, il a aussi des mandats d'arrêt international, mais que le gouvernement nous aide vraiment à la réduction aussi de Laurent Kunda pour qu'il puisse aussi répondre de leurs actes. Ici à Lubumbashi, vous avez vu ce qui s'est passé à Lubumbashi avant-hier, ce samedi, avec les Kata Katanga. Ils nous ont amené des enfants de 10, 12 ans, 15 ans, enrôlés au sein de ces mouvements. Maintenant, tous ces seigneurs de guerre, qui ne doit pas, même si on les arrêtait ici chez nous, il n'y a pas de prison pour les maîtres, puisque les gouvernants vraiment nous aident toujours chaque fois à les échapper de la justice. Maintenant, le seul moyen plutôt, c'est les transférer toujours à la haie. C'est ça, en tout cas. À part ça, vraiment, ça n'ira pas dans ce pays.
Voilà, donc le transfert à la haie serait l'idéal pour vous, afin d'amener quand même le pays à retrouver la paix. C'est vrai, il y a plusieurs seigneurs de guerre, comme vous l'avez signalé. Vous avez mentionné également la protection par le gouvernement congolais de Bosco Ntaganda. Aujourd'hui, tout saute aux yeux que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent juger et travailler sur la solution durable, la paix durable à RDC. Merci Chico d'avoir appelé de Lubumbashi. Et Samy, vous êtes à Mahagi, bonjour.
Bonjour JR.
Voilà Chico, Samy, vous êtes à Mahagi. Que vous inspire la reddition de Bosco Ntaganda et quelle suite probable donner à cette affaire?
En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Je pense que pour nous, ça tombe très bien. C'est un autre soulagement pour plus d'un à Ituri ici. puisque vous savez, l'Itourie a connu une période très sombre avec la présence de ce monsieur, ou bien de, plusieurs autres milices qui ont élu domicile pendant un certain moment chez nous ici. Et alors, aujourd'hui, que Bosco Ntaganda soit rattrapé par la justice ou soit rattrapé par le passé, ça nous fait beaucoup de joie et nous pensons qu'on aura une équipe plutôt favorable pour la cause des victimes, des nombreuses victimes qui ont souffert ici en Itourie. Toutefois, nous tenons à regretter le retard du gouvernement congolais pour le transfert de M. Bosco Ntaganda, parce que, vous savez, il aurait dit le remettre à la justice internationale avant qu'il ne fasse autant de crimes au Kivu. Les quatre clandestins, nous sommes quelque peu satisfaits de le voir aujourd'hui afin d'arriver à la haie. Monsieur Bosco Ntaganda a emprunté les voies, donc les voies pour son arrivée à la haie, il a emprunté le Rwanda. Ça nous amène à une certaine interrogation, comment il peut se faufiler par le Rwanda pour arriver à l'ambassade des États-Unis afin d'atteindre la CPI. Bon, nous avons aussi appris que Monsieur Bosco Ntaganda était en fait sur le mandat lancé par la CPI, était reconnu comme étant un citoyen rwandais, cela ne nous étonne pas. Et nous pensons que cette reddition est encore la bienvenue pour nous, le peuple de l'Ituri. Pendant peut-être que prochainement pour savoir plus, que nous puissions nous éclaircir au niveau de la CPI si ce monsieur est vraiment congolais ou bien il est rwandais. La principale crainte, je dirais, est de voir peut-être M. Bosco, par le fait même qu'il se soit rendu de lui-même à la CPI, puisse servir pour certaines puissances à nuire à certaines personnalités de CPI. Mais nous souhaiterions voir le juge de la CPI faire leur travail à toute conscience, sans état d'âme. Et nous espérons bien que, grâce à leur professionnalisme, ils sauront faire le travail et rendre justice à toutes les victimes de la guerre en Ituri et partout en République démocratique du Congo.
Voilà, merci Samy. Comme Chico, vous êtes très, très, très content, en tout cas vous saluez demain cette reddition, mais vous regrettez du fait que le gouvernement congolais ait mis un peu de retard par rapport à cette question, sinon on l'aurait déjà balayé depuis un certain temps. Et vous souhaitez que cette fois-ci, ce soit quand même, disons, un jugement qui sera rendu en faveur de la population congolaise et pour des crimes. Je crois que nous devons les rappeler d'ailleurs que le mandat qui a été lancé en 2006 et aussi en 2012 c'était sur base donc de crimes commis, donc l'enrôlement des enfants à l'armée et aussi des crimes contre l'humanité. Voilà, donc je crois que à ce niveau là, mais nous verrons dans la mesure du possible par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de Nord Kivu, est-ce que la CPI pourrait faire d'une paire de coups ou peut-être il y aura encore un autre mandat plus tard, on verra avec notre invité. Merci Samy. Franck, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi et à votre invité qui est au studio.
Voilà Franck, quelle est votre proposition par rapport à la question du jour? Que vous inspire la reddition de Bosco Ntaganda et quelle suite probable donner à cette affaire?
Je dois me réjouir en tant que Congolais qui fait que la paix règne dans mon pays. Vraiment aujourd'hui, moi je ne peux pas dire que Bosco Ntaganda s'est rendu. Non, Bosco Ntaganda a été poussé par la pression internationale afin qu'il se rende. Il ne s'est pas rendu de sa propre volonté. Et c'est là, c'est un signal fort qui doit vraiment montrer à d'autres seigneurs de guerre qui sont restés au nord qui vous. Vous savez ce qui s'est passé à Ituri. Hein, il y a eu l'arrestation de Thomas Lubanga, de Martin Goudiolo, Germain Katanga. Il y a eu au moins d'accalmie. Mais au nord qui vous, aucun seigneur de guerre n'a jamais été arrêté. Aujourd'hui, comme on vient d'arrêter Bosco Ntaganda, et je crois que demain, ça sera le tour de Sultan Matenga et les autres, les Morgans. À ce moment-là, je crois qu'il y aura aussi la paix. Regardez aujourd'hui nos frères de l'Est, précisément dans le Kivu. Ils préfèrent que les boulots qui restent pour eux, c'est l'armée.
Franck, s'il vous plaît.
Et puis par après, les gouvernements congolais, comme d'habitude, va dire, voilà, nous voulons réintégrer les groupes armés. Ces gens-là viennent avec leurs grades de la rébellion, les colonels, les généraux, et on les voit avec beaucoup de...
Donc vous souhaitez, Franck.
Oui, Franck. Ce qui encourage les autres, que voilà, nous aussi, nous pouvons faire cette aventure, demain nous serons appelés colonels ou généraux. Regardez aujourd'hui à travers le pays, combien de colonels qu'on a, combien de généraux, et même les autres qui n'ont même pas été sur les, dans des écoles ou académies militaires. Et on lève donc ce qui est dégradé. Tous ces gens-là, 80% ou 60% viennent du Kiev. Et donc, je crois que c'est un bel exemple comme on a commencé avec Laurent avec, Bosco Kanganda. Et nous voulons que, qu'on arrête aussi sur le Tanima Kenga qui est là-bas. Et Morgan... Et les autres, je crois que ça sera vraiment un bon...
Voilà, rappelons que nous attendons tous la signature de l'accord de Kampala qui pourrait sortir donc des négociations qui ont eu lieu à l'Ouganda. Mais bon, voilà, nous retenons une chose et nous vous rappelons que l'aile Sultani, aurait accepté d'intégrer l'armée congolaise. Donc je crois pour la suite, ça pourrait peut-être nous donner encore d'autres questionnements, mais c'est pas le débat du jour. Franck, merci d'avoir appelé le Kananga. Et Franck, vous êtes également à Vienne, donc nous avons la suite de Franck. Franck est à Vienne, en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour Monsieur Girard, bonjour à l'invité que nous avons suivi avec Intero Studio.
Voilà, Franck, vous avez suivi aussi vos prédécesseurs. La majorité, ils ont salué cette reddition de Bosco Ntaganda, tout en émettant un peu quelques réserves, notamment sur quelques regrets sur le retard accusé par le gouvernement de pouvoir transférer Bosco Ntaganda. Et vous avez suivi également notre invité qui a déploré cet aspect des choses, que le gouvernement est resté en deuxième ligne au lieu d'être en première ligne. Le gouvernement qui devait être aussi concerné par la question. Alors, Franck, vous avez aussi d'autres propositions?
Oui, personnellement, je trouve que l'arrestation ou la reddition de Ntaganda menait devant deux attitudes. La première, c'est une attitude de soulagement pour nos compatriotes de l'Est qui sont souvent terrassés, humiliés, acculés par les désordres de tout genre. Dans la plupart des cas provoqués par ce genre de personnes, quoi. Et la deuxième, c'est une attitude d'humiliation avec des interpellations. Parce que le soulagement, c'est par rapport au retour de la paix, si on peut ainsi parler. On espère qu'il n'y aura plus de viols, il n'y aura plus de tueries, il n'y aura plus de pillages, si vraiment les seigneurs de guerre peuvent se mettre d'accord. Mais là où je me trouve devant une attitude d'humiliation, c'est dans la mesure où l'armée congolaise a été dans l'incapacité de le traquer et de le mettre hors d'état de nuire. Et aussi encore en référence à l'interview de James Kabarebe sur la capacité dissuasive de notre armée, il a décrit comme étant une armée vraiment incapable de tuer même des souris. Et cette réduction et le transfert de Bosco Ntaganda, sans aucune participation directe de notre armée, traduit l'inefficacité et aussi la désorganisation de nos troupes républicaines. Ainsi, à ce niveau-là, je ne pose pas de questions. Nous devons seulement nous réjouir de cette reddition suivie de transferts, ou bien nous pouvons aussi nous poser autant de questions. Des Congolais avertis cherchent à savoir, à connaître les tenants et les aboutissants de cette filière. Qui parraine en principe ces activités et avec qui au niveau national et international. Et ça nous fait maintenant voir que de n'importe quel coin, Ntaganda arrivait à la CPI, la ville de Lubumbashi a été encore infiltrée. Donc c'est comme si de n'importe quel coin de la République, on peut facilement agresser la RDC. Mmh. Et là encore, nous pouvons revenir sur la bonne gouvernance, la justice. Dans un pays avec une armée, est-ce qu'on peut vraiment assister à des scènes comme ça? Je crois que nous sommes là encore devant nos responsabilités citoyennes. On se réjouit du fait qu'il est déjà parti, il sera jugé, à moins que la CPI se montre aussi objective.
Oui, Franck.
Mais le problème n'est pas pour autant résolu totalement, parce que on peut encore voir Ntaganda vers le Lubumbashi, vers le Bas-Congo, vers le Kasaï, vers l'Équateur. Donc on ne sait pas ce qui peut encore arriver demain ou après-demain, si le peuple congolais ne se montre pas attentif et vigilant.
Oui, alors Franck, est-ce que vous pensez, que, comme d'autres observateurs, que ceci, c'est un signal, serait un signal très 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 fort, ou un signal très fort à mettre dans l'actif des accords d'Addis Abeba?
Oui, ça peut déjà se dire ainsi, mais nous savons aussi comment le gouvernement rwandais se sert de ruses. Je trouve que le gouvernement rwandais, après avoir participé à ces accords-là, voulait se dédouaner d'abord de certaines pressions internationales. Faire voir à tout le monde qu'ils sont capables de coopérer et ils ne se voient. Mais après avoir donné tous ces signaux, ils peuvent encore se servir de la ruse pour mettre la RDC dans sa poche, comme on en a toujours assisté. Et je crois que là, nous avons aussi besoin d'avoir une diplomatie visible, manifeste au niveau national et international. Mais on ne doit pas se contenter de ces accords-là, dire que tout est déjà fait, alors que le Rwanda est capable de produire encore un autre rebelle, de produire encore un autre Bosco Ntaganda. On est parti de nom à nom, j'espère que Bosco n'a pas été le premier. Donc, si on n'est pas attentif, après Bosco, on risque encore d'avoir un cadeau empoisonné du même Rwanda.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Nous revenons à vous, Dominique Werth. Adji, Étienne, gardez la ligne. On va revenir également à vous, tout en rappelant à nos auditeurs, vous qui nous rejoignez, bienvenue et composez carrément les 081-890-63-15 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Dominique Webb, nous prenons le dernier intervenant, Franck, et puis on va remonter quand même par rapport à son attitude. Hein. Il a deux attitudes, de soulagement et aussi l'attitude d'humiliation.
Oui, alors, je peux comprendre évidemment l'attitude de votre auditeur, oui, de Franck. Maintenant, l'humiliation, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans les qualificatifs et dans les mots qu'on utilise. Maintenant, ça, ce qui est évident, je le disais tout à l'heure, j'ai un peu le même sentiment. On a d'un côté évidemment la satisfaction de voir que enfin Monsieur Ntaganda est à la haie et va pouvoir répondre de ses crimes de guerre et contre l'humanité qui ont été perpétrés par lui et ses forces militaires il y a maintenant une dizaine d'années, hein, puisqu'on on parle des crimes de 2002 et 2003. Et puis, en même temps, se dire, mais finalement, est-ce que la RDC n'a pas été un petit peu humiliée ou est-ce qu'elle n'a pas été un peu sous-considérée dans le marchandage qui s'est fait entre Kigali et Washington par rapport à M. Ntaganda? Je pense qu'il y a eu, en effet, on pourrait tout à fait avoir le sentiment que la RDC, finalement, a été un peu, non pas un acteur ou une actrice, mais elle a plutôt été spectateur de ce qui s'est passé la semaine passée. Bon, ben voilà, moi je pense que malgré tout, la RDC est un pays souverain. Le chef de l'État doit, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il doit maintenant reprendre la main. Il y a encore un certain nombre de chantiers qui sont déjà ouverts, mais qui doivent vraiment avancer de manière beaucoup plus visible. Et je ne parle pas des 5 chantiers du président de la République, mais bien la négociation à Kampala. Il faut qu'on aboutisse maintenant, il faut que ça se termine. Je pense que ce sera le cas la semaine prochaine. Qu'on voit un peu ce qui en ressort, voir si en effet les factions du M23 qui sont plutôt dans l'idée de vouloir rejoindre les forces armées ou en tout cas revenir dans le giron de la République démocratique du Congo et des institutions de ce pays, eh bien voir un peu si tout ça se met bien en place. Je pense qu'il y a aussi la consultation nationale qui a été engagée depuis le début de l'année lors du discours de nouvel an du chef de l'État, qui est notamment mise en œuvre par le président de l'Assemblée nationale. Il faut que ce dialogue national, cette consultation aboutisse, elle aussi, parce que on sait qu'il y a en effet quelques problèmes à l'intérieur de la République démocratique du Congo qui font que certains corps constitués comme l'armée notamment n'ont pas réussi à reprendre le contrôle du territoire, de l'ensemble du territoire congolais, et surtout évidemment du côté de l'Est, et à neutraliser toutes les forces négatives qui sévissent dans la région. Donc oui, je pense que le chef de l'État et le gouvernement a encore vraiment du pain sur la planche, et ce n'est pas parce que M. Ntaganda est aujourd'hui à la haie que, en effet, il n'y aura plus de viol, que la paix sera là, que les gens vont revivre dans une forme de sérénité. Quoi.
Voilà, mais il y a quand même des inquiétudes autour de la suite probable des événements. Aujourd'hui, c'est vrai que Kounda Bantouaré avait, au fait, il s'est réfugié, est allé au Rwanda. Le Rwanda n'avait pas collaboré à cette époque-là pour extrader Kunda Matware qui était tant réclamé en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout est fait rapidement, comme vous l'avez mentionné, en une semaine. Bosco Ntaganda, ça s'est passé très 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 vite. Mais entre-temps, Kunda Matware est encore là. Il y aura d'autres Bosco Ntaganda. Finalement, on se retrouve autour d'un feuilleton qui semble ne pas vraiment encourager le Congolais.
Oui, je pense qu'on est vraiment encore dans une situation. Maintenant, on est vraiment dans une situation difficile, c'est évident. Et je pense que malheureusement, ce n'est pas encore demain qu'on va retrouver la paix, la sérénité dans cette région-là de la République démocratique du Congo. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des événements et on voit au fur et à mesure des mois depuis le début de cette année 2013, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'événements qui font que je pense qu'on n'est plus dans la situation d'avant de l'année passée où on ne voyait pas le bout du tunnel. Ici, je pense qu'on commence quand même à voir le bout du tunnel, mais le chemin est encore vraiment long, le chemin est encore ardu et il est évident qu'il va falloir voir si le Rwanda respecte vraiment ses engagements et respecte vraiment l'accord cadre d'Addis Abeba. Et il y a eu la réunion de la quadripartite ce week-end au Congo-Brazzaville avec M. Nsassou Nguesso qui joue le médiateur dans la région. Il y a l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mme Robinson, qui a été nommée. Bon, il faudrait qu'on l'entende un peu sur justement ce transfert de M. Ntaganda là-bas. Quel est son sentiment, quel est sa lecture de ces événements-là. Mais donc, je pense qu'on est en marche quand même vers une résolution de ce conflit qui dure depuis maintenant de très très nombreuses années. N'oublions pas.
Une question de curiosité. Si jamais Bosco Ntaganda, qui s'est rendu à l'ambassade de l'Amérique, aurait pu demander l'asile, par exemple, aux États-Unis, et qu'est-ce qui allait se passer?
Oui, donc, mais c'est pour ça que je pense que, à mon avis, ce n'est quand même pas de son propre gré qu'il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis, parce que c'est un des éléments qui permet de démontrer qu'à mon avis, on l'a quand même fortement invité à se rendre à l'ambassade, et qu'il n'y est pas allé de son propre gré, parce que sans doute que s'il y était vraiment allé de son propre gré, il aurait demandé l'asile politique.
C'est là, finalement,
pourquoi c'est tout le monde.
Il s'est rendu et il demande le transfert à l'ambassade.
Oui, donc, je pense qu'il y a quand même il y a eu des personnes qui sont intervenues pour que M. Ntaganda demande ou en tout cas accepte son transfert vers la Haye, plus que de demander l'asile politique. Il aurait pu tout à fait demander l'asile politique, évidemment, aux États-Unis, ce qui aurait été évidemment très embêtant pour M. Obama dans sa volonté de vouloir reprendre pied dans cette région pour essayer de résoudre les conflits et de retrouver une forme de stabilité, parce que l'exploitation des ressources naturelles telle qu'elle se fait actuellement par les chefs de guerre, par des creuseurs qui sont illégitimes. Aujourd'hui, ça n'arrange pas les intérêts des grandes multinationales qui sont les premières bénéficiaires de toutes ces ressources-là. Je pense qu'il y a une volonté de reprendre pied dans cette région pour remettre du contrôle, remettre de l'ordre, remettre de la stabilité pour que l'exploitation des ressources soit plus efficace et sans doute plus efficiente aussi.
Adji de Kindou, Étienne de Guémena, Olivier de Kinshasa attendaient depuis très longtemps et nous vous rappelons, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, bienvenue et vous souhaitez également intervenir dans ces débats, composez les 081-893-15 ou encore nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Adji, merci de nous rejoindre. Vous êtes avec nous, Adji. Vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, cher. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi à partir de Kindu.
Vous avez suivi vos prédécesseurs. En tout cas, la majorité, disons, exprime ouf de soulagement. Et aussi, en deuxième lieu, quelques inquiétudes également. Vous avez également vos propositions.
Pour moi, je dois être bref et je félicite les premiers intervenants à partir de Katanga.
Le Lubumbashi, M. Chico.
Oui,
allez-y.
Bon, pour moi, je vois que le problème de Bosco Ntaganda, cela dépend de notre pays. Pourquoi ? Parce que notre pays n'a pas une bonne gouvernance, tel que le premier intervenant a dit. Il a dit, on a arrêté Bosco Ntaganda. On l'a transféré jusqu'à la haie, il est là à la CPI. Mais le même jour on l'a transféré, on a entendu encore le bruit des autres rebelles à partir de Katanga. Est-ce que vous voyez cela va finir comme ça? Nous, les Congolais, mais d'après moi, personnellement, je dis que pour les problèmes de Bosco Ntaganda, nous voulons que la justice soit rendue. Et si on ne tient pas compte de ça, la RDC sera toujours maltraitée par des rebelles. Puisque si on voit le premier rebelle n'était pas arrêté et n'était pas poursuivi, condamné, les autres feront de la même sorte. Le problème aussi que je veux soulever, c'est par rapport aussi à la CPI. Le problème là de retard, le lourdement le déroulement de justice n'est pas quand même bon. Pourquoi? Parce que vous allez voir le Bosco Ntaganda est transféré là-bas, il va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans sans pourtant être jugé. Et si le Bosco Ntaganda est condamné, les autres rebelles verront que la justice est rendue et on va aussi cesser de tel système, voulais-je dire.
Voilà, merci beaucoup Adji. Donc vous mettez un accent sur la lourdeur administrative du côté de la CPI, qui pourrait constituer quand même un frein aussi pour aider tant soit peu à pacifier, à stabiliser la partie est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a d'autres chefs rebelles qui continuent à être actifs dans les groupes armés dans l'est de la République. Si jamais les choses vont vite du côté, aller vite du côté de la CPI, ça pouvait servir quand même d'exemple, hein, et aider ceux-là à pouvoir dire que donc, voilà, c'est un signal, nous risquons aussi de subir le même sort. Merci beaucoup Adji. Étienne, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour M. J, bonjour à tous les deux de la radio Kapi, bon début de la semaine.
Merci, Étienne, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup Monsieur le journaliste. Je pense que je vais abonder au même sens quelque peu avant que mon frère là de Vienne en Autriche qui venait de parler. Et paraphraser aussi certaines analyses faites par votre invité. Monsieur le journaliste, vous savez, comme a dit l'invité, que le Congo est un pays souverain et qui doit jurer de toute sa souveraineté. Alors, vous savez, le dossier Ntaganda, qui aujourd'hui a accepté volontiers d'être transféré à l'AE. Donc, au début, monsieur le journaliste, vous comprendrez que Bosco Ntaganda, qui était depuis longtemps sous le mandat de la CPI, mais était protégé par les autorités congolaises. Comme raison avancée que non, on doit privilégier la paix et on avait confié une certaine responsabilité grandiose dans ce pays à M. Ntaganda. Il a géré un nombre important de militaires derrière lui et quelque peu, il va maintenant se désengager de l'armée nationale pour rejoindre la rébellion, là où il était venu. Or, nous savons que son départ ou son origine, c'est d'abord le Rwanda, c'est à partir du Rwanda qu'il était avant que M. Laurent Kunda, après tous les dégâts et lorsqu'il a vu que ça ne va pas, il va se réfugier au Rwanda et là va naître maintenant le monsieur là, Bosco Ntaganda. Mais si il a été protégé et aujourd'hui il accepte qu'il soit transféré à l'AE personnellement avec sa conviction personnelle, moi, je trouve que vraiment, c'est une grande inquiétude pour moi parce que comment voulez-vous, Bosco Ntaganda qui se trouve sur le sol congolais, et va franchir d'un côté la frontière congolaise et de l'autre la frontière rwandaise, et il va aller volontiers se présenter dans l'ambassade américaine. Donc, moi, je vois en quelque peu, c'est comme c'est un complot, un hélicoptère très bien arrangé, et qu'on a canalisé de sorte que M. Ntaganda puisse aller se présenter pour qu'il puisse aller à l'AE déclarer, parce que nous devons être congolais. Je parle en tant que congolais et fils qui se soucie de son pays. Monsieur le journaliste, on doit s'attendre à ce que Ntaganda est allé personnellement pour déclarer ce qu'il va déclarer et qui causera des tolères dans notre pays, la RDC. Vous savez, lorsque Taganda est arrêté, on dit que c'est un sujet rwandais. Quand on pose la question aux autorités congolaises, ils se réservent de beaucoup de commentaires et jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il est poursuivi comme un sujet rwandais ou il est poursuivi comme un sujet congolais. Ouais, mais tous ces aspects-là nous poussent, moi personnellement, à dire que vraiment, Taganda n'est pas allé pour crainte qu'il sera, il devrait être arrêté, bien qu'il y ait une séparation entre son groupe et M23. Mais je sais que Taganda a accepté d'aller dévoiler les secrets, secrètement secrets qu'ils ont dit avec, d'un côté, les autorités rwandaises et de l'autre, avec les autorités congolaises. Donc je pense que, oui, on peut aujourd'hui saluer qu'il est parti à La Haye, on peut se réjouir que notre Taganda est allé. Mais à mon avis, Étienne, depuis 2009, je pense que lui, tel qu'il est là, il est allé au moins dévoiler certains secrets.
Voilà. Merci beaucoup,
Étienne. On doit analyser ça, nous ne sommes pas des enfants.
Tout à fait.
Quelqu'un qui est poursuivi, qui était protégé aujourd'hui, actuellement, mais voici, je veux qu'on puisse me transférer, qu'on puisse m'arrêter pour que je puisse aller. Non.
Voilà, si je comprends bien, Étienne, si je comprends bien, pour vous, donc la suite ne sera pas très agréable pour la RDC, hein, parce que vous soutenez que Taganda détient beaucoup de secrets par rapport à la question, donc si c'est rendu volontairement, bon, peut-être il y a Augustin Roche, hein, lui-même connaît les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup, Étienne de Guémena. Olivier, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Ah, bonjour, Radio Capri.
Et merci de nous rejoindre, Olivier, vous avez la parole.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les auditeurs qui m'ont précédé. Seulement, je vais inverser mes sentiments. D'abord, je vais dire mon inquiétude avant de pousser un autre de soulagement. Inquiétude, pourquoi? Parce que aujourd'hui, Bosco Ntaganda, s'il est transféré à la CPI, ce n'est pas pour les crimes commis dans le Nord Kivu, mais plutôt pour les crimes qu'il a commis dans les forêts où j'étais d'ailleurs.
Mmh.
Alors, mon inquiétude se trouve dans le sens où j'ai peur que les crimes commis dans le Nord Kivu soient jetés dans les oubliettes, et qu'on ne considère plus que c'est le crime qu'il a commis dans les
détournements. Oui.
Mmh. D'ailleurs, pour preuve, j'en veux pour preuve le silence autour de la question de Kunda Bantouare et tous ceux qui ont précédé Laurent Kunda dans cette région-là.
Oui, ben, Olivier, s'il vous plaît, il faut souligner que aujourd'hui, c'est vrai, le mandat qui sont en cours, ce sont deux mandats délivrés en 2006 et 2012. Je crois que là, on parle de se base sur le recrutement des enfants de moins de 15 ans et puis des crimes contre l'humanité. Donc, je crois, pour résumer, il revient à la juge hein, d'ouvrir encore une autre enquête. Sur les crimes commis
c'est là le problème. C'est depuis à peu près 2006 ou 2007 que Laurent Kunda, le CNDP et toute sa compagnie ont commencé à saisir dans le Nord Kivu. On ne va pas attendre 10 ans pour qu'on ouvre.
Donc vous voulez que ça passe vite, qu'on puisse faire d'une pierre deux coups, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Au moment où il est à la CPI, qu'on ouvre encore la
question. C'est pas qui soit considéré comme le problème. Ce n'est pas le seul. La preuve qu'aujourd'hui, le M23 se scindait, il y a d'autres têtes qui sonnaient. Si on se focalise sur Bosco Ntaganda, on va retomber dans la même erreur qu'en 2009,
voilà.
En privilégiant
vous rejoignez Franck de Kananga qui soutenait que tous les groupes armés actifs qu'on ouvre une enquête maintenant afin de responsabiliser toutes ces personnes pour éviter qu'il y ait de...
Effectivement, ce n'est pas n'importe qui. Sa réduction, effectivement, peut... soulager un temps soit peu toute la douleur qu'il a fait subir à la nation congolaise. Mais je crois que pour la question du Kiev, pour la question de la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'arrestation de Bosco Ntaganda qui va résoudre le problème. Il faut instaurer tout, un tribunal international sur la question du Congo pour qu'on espère un jour voir toute la vérité et que la justice soit faite.
Merci beaucoup Olivier. Rach, on va terminer ce groupe d'auditeurs avec vous. Vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Gilles.
Voilà, vous avez la parole Rach.
Oui, je vous remercie tout d'abord pour m'avoir accordé la parole hier. Et je remercie la radio Okapi pour avoir pensé à organiser de telles émissions qui donne l'opportunité aux auditeurs de pouvoir s'exprimer à la média. Et aujourd'hui, je pense qu'aucun Congolais n'ignore que la guerre à l'est de notre pays n'est qu'une simple politique. On parle aujourd'hui du départ de M. Bosco Ntaganda à la haie. Hier, c'était Laurent Nkunda. Aujourd'hui, on parle ici de Nkunda, on ne sait plus où est-il caché. Et aujourd'hui, c'est Bosco Ntaganda. Et ça, c'est une faute aventure. Hein, monsieur le journaliste? Vous voyez, ça, c'est une façon de tromper les Congolais. Il est aujourd'hui à la haie, et c'est, la guerre n'a pas pris fin à l'est de notre pays. Il y a une grande équipe qui continue à faire des violences, à tuer les gens là-bas, et on ne parle pas. Hein? Ce n'est pas ce qui va terminer la guerre à l'est. Cherchons à ce que nos autorités puissent terminer d'abord cette guerre à l'est. Au lieu de parler, au lieu de tromper la population comme ça, on a amené M. Ntaganda à la haine. C'est pas ça qui termine la guerre. On l'a trompé avec trop de dialogues ici, dialogue, qui n'aboutit à aucun bon résultat. Maintenant, les Congolais meurent en désordre. C'est tous les jours que les Congolais sont en train de mourir à l'est du pays.
Merci beaucoup, Rach, d'avoir appelé Dominique Wertz. Nous sommes avec vous dans ce studio. Nous avons suivi beaucoup d'inquiétudes et d'appréhensions. Voilà. Mais la plus grande question, si on peut peut-être revenir sur l'inquiétude principale, c'est aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y ait un tribunal international pour les Congos. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, écoutez, moi je pense en effet que la situation demande qu'il y ait des enquêtes évidemment approfondies, mais aussi surtout des enquêtes sur les agissements de tous les acteurs qui depuis maintenant une dizaine d'années sont dans cette région de la République démocratique du Congo et qui soit en étant les acteurs officiels n'arrivent pas à remettre de l'ordre et à ramener la sécurité, et puis soit évidemment pour les acteurs non officiels, pour tous ces groupes armés informels qui se mettent en place, qui se démontent et se remontent assez facilement, quelles sont les responsabilités. Alors, oui, un tribunal international pour le Congo, je pense que ce serait une bonne idée. Il est évident que les limites de la Cour pénale internationale existent. On l'a dit tout à l'heure, un de vos auditeurs l'a dit, il y a la lenteur, ça va être très lent et très administratif, ça va être lourd, ça va être, ça c'est évident, c'est le fonctionnement de la justice qui est d'ailleurs un petit peu comme ça, puisque on ne peut évidemment pas soutenir une justice expéditive. Il faut malgré tout qu'il y ait les enquêtes, il faut qu'il y ait les preuves, il faut qu'il y ait. Alors évidemment, le problème de la Cour pénale internationale, c'est d'une part cette lenteur, et puis d'autre part, c'est évidemment le fait qu'elle est à La Haye, et donc très très loin du lieu
de référence. Et les crimes de guerre, tout ça.
C'est... Bien entendu. Mais donc, si vous voulez faire venir des témoins à La Haye, des femmes, par exemple, qui ont été violées, des enfants qui ont été enrôlés, c'est quand même très très compliqué et très lourd. Donc, il est évident qu'avoir un tribunal qui soit un peu plus proche de la région concernée par ces procès ou par ces enquêtes et puis par responsabilités qu'on pourrait relever, évidemment, le mettre plus près du lieu concerné, c'est évidemment beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Et donc, moi, oui, je pense qu'il y a tout à fait l'idée, en tout cas, de pouvoir mettre un tribunal international pour la RDC sur tous les agissements depuis 2003-2004. Je pense que ce serait une bonne idée. Mais là, il faut être bien clair qu'il faudra que toutes les parties soient d'accord. Et collaborent avec ce tribunal. Et donc, ça demandera aussi une volonté politique de la part des autorités congolaises de vouloir vraiment rentrer dans ces dynamiques. On verra d'ailleurs déjà avec la question de M. Ntaganda si la RDC va vraiment jouer son rôle de pouvoir participer et de pouvoir collaborer évidemment à l'enquête qui va commencer, qui va démarrer avec le procureur de la Cour pénale internationale. Et dernière petite chose, c'est vrai que on parle toujours de Laurent Nkunda, mais malheureusement Laurent Nkunda n'est pas poursuivi par la Cour pénale internationale. international. Donc il n'y a pas de mandat contre lui venant de la Cour pénale internationale. Il n'y a que des mandats délivrés par la justice congolaise qui demande qu'il soit évidemment transféré et déféré devant les tribunaux ad hoc ici en RDC pour les crimes qu'il a commis, bien entendu.
Nous avons Sylvain, si vous me permettez de prendre Sylvain, le dernier auditeur qui va intervenir, il est à Kinshasa. Sylvain, bonjour.
Bonjour, bonjour à votre invité, bonjour aussi à tous les invités de la radio.
Voilà, vous avez deux minutes pour, disons, conclure avec nous avant que nous redonnons la parole à notre invité pour une conclusion générale.
Bien, d'abord, au terme, il faut reconnaître une chose, c'est que la Cour pénale internationale poursuit les plus hauts responsables. Alors, en ce qui concerne tous les crimes qui se commettent à l'est de la RDC, il faut se poser la question qui est le plus haut responsable. Il me semble bien que dans la définition des termes du statut des Roms, le plus haut responsable doit être la personne qui gère l'État congolais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout ce qui se fait, autour de certains individus, Taganda, il y a Laurent Kunda, tous ces gens, moi, je crois que les Congolais ne doivent pas être laissés loisir de la fausse compréhension des uns et des autres. Je suis tenté de croire, et comme tous les auteurs l'ont signalé au cours de l'émission, que Bosco s'est rendu lui-même. Est-ce que ce n'est pas un signe d'accusation des co-auteurs, hein, si pas des auteurs, des vrais auteurs, des crimes qui se commettent à l'Est? Moi, je suis obligé de dire la vérité, c'est que M. Taganda risque d'aller faire des dépositions contre certains gens qui disent ce pays, et aussi, pour Pupero, même s'ils disent aux Congolais qu'ils sont comptables.
Oui, là vous sortez à vous couper, Sylvain. Oui, Sylvain, là vous sortez vraiment très, en tout cas, à vous couper. La plus grande question aujourd'hui, est-ce que est-il un signal fort, disons, à mettre à l'actif des accords d'Addis Abeba, pour vous?
Il n'y a aucun mariage, un divorce exact doit être constaté dans ce que vous comptez dans la fin, puisque
voilà, là on se comprend pas, Sylvain, et vous sortez vraiment entrecoupé, on ne sait pas ce dont vous parlez. Voilà, on revient à vous, Dominique Vert, parce qu'il y a un auditeur qui a parlé tout à l'heure de transfert de Bosco Tanglada à la Cour pénale internationale. En fait, ce transfert s'est fait sur la base de recrutement pour des enfants de moins de 15 ans et les crimes contre l'humanité commis entre 2006 et 2002, entre 2002-2003. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a également des crimes commis au Nord Kivu qui ne sont pas mis en compte. Mais comment ça va se passer?
Ah oui, mais bien entendu. Mais donc ça, il faudra qu'on voit avec la. Il va y avoir, à mon avis, un double éclairage qu'on va avoir dans les semaines qui viennent. Il va être entendu dès demain à La Haye pour commencer toute la procédure. Mais il va y avoir, à mon avis, un double éclairage. Un, c'est voir exactement comment est-ce que le procureur va engager la dynamique du procès de Monsieur Ntanganda. Alors, est-ce qu'on va être dans les lignes très, très carrées et très restreintes des chefs d'inculpation qui ont été levés contre lui, ou bien est-ce qu'il va y avoir de la part de la Cour et de la part du procureur de la Cour pénale internationale et puis des juges aussi dans un deuxième temps, voir un peu s'ils vont élargir les enquêtes et s'ils vont élargir le procès à d'autres événements évidemment dramatiques et à d'autres crimes qui ont été commis même encore tout récemment et qu'ils le sont d'ailleurs même encore en ce moment au niveau des Kivu et de l'Ituri. Alors, deuxième éclairage, c'est voir aussi comment est-ce que les autorités congolaises vont travailler avec ce procès et dans cette dynamique judiciaire internationale. Est-ce qu'ils vont se constituer partie civile? Est-ce qu'ils vont vouloir véritablement mettre à plat tous les crimes et toutes les tous ces groupes rebelles qui ont été qui ont sévi dans la région? Ce sera aussi un deuxième éclairage de voir un peu est-ce qu'on a envie d'avoir une véritable lumière sur tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années dans cette région là ou bien est-ce qu'on va simplement se limiter à ne pas remuer toute cette tout ce qui s'est passé.
Réveillez, qu'on l'appelait.
Voilà. Et donc ça, ce sera, c'est dans les semaines qui viennent qu'on va voir un peu. Et puis, qu'il faut qu'on voit aussi, bien entendu, au-delà de ça, ben, c'est toutes les autres dynamiques qui sont aussi lancées actuellement. Ce sont les accords de Kampala qui doivent maintenant aboutir. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba qui doit avoir quand même des prolongements concrets dont on ne voit pas encore vraiment les résultats. C'est évidemment la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO qui doit pouvoir maintenant neutraliser les forces rebelles ou les forces négatives qui sont en train de sévir dans la région. C'est la consultation nationale qui doit aussi aboutir à ce que on relance quand même le processus des élections, et on n'a toujours pas eu les élections provinciales. C'est quand même très important que ces élections puissent avoir lieu dans les mois qui viennent, puisque pour le moment le Sénat est bloqué. On voit bien que les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux fonctionnent toujours selon les élections de 2006 alors qu'on est en 2013. Il faut que tout ça se mette en place et qu'on voit vraiment si de la part de la communauté internationale, des autorités congolaises, des pays voisins, évidemment, il y a une véritable volonté politique de vouloir enfin sortir du chaos et sortir de cette violence qui est en cercle vicieux depuis une dizaine d'années dans toute cette région-là.
Dominique Overt, merci d'avoir été des nôtres. C'était un grand plaisir pour nous,
ben pour
toute
aussi.
L'équipe de Parole aux Auditeurs, de partager ce moment d'échange avec vous en direct du studio Jérôme Gongo. Voilà, depuis tout ce temps, donc on faisait toujours notre entretien par téléphone.
Et voilà.
Voilà, donc c'est un grand plaisir. Et nous rappelons que vous êtes analyste politique qui suit de près, qui fait en tout cas au quotidien des analyses sur les questions de l'Afrique centrale. Merci et merci à vous tous d'avoir participé également à ce débat.
Allô ? Allô ? Allô ? Mais qui ne répond pas ?
Nous profitons également pour dire merci à notre auditeur qui tenait vraiment à intervenir, le professeur Kabeya, qui nous appelait de France à Paris, qui tenait vraiment à intervenir. Dommage qu'on n'a pas eu assez de temps pour vous accorder la parole, donc vous êtes arrivé juste en retard, donc ce n'est qu'une partie remise. On le fera prochainement. Merci également à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Mputu et Thierry Lamegi l'ont réalisé. Gilles Lugembo vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.com. .net. La troisième conférence des gouverneurs s'est tenue à Kananga la semaine dernière, à l'issue de laquelle plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres l'engagement du gouvernement congolais d'allouer des fonds aux gouverneurs pour leur budget d'investissement. Qu'en pensez-vous? Inscrivez-vous pour participer au débat en nous proposant vos commentaires à notre courriel pa@radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur Radio Capi. Moi, je vous retrouve demain et à très bientôt.